dans un décor désenchanté.
Bruno Rodeo, t'es comme une fleur dans une craque d'asphalte.
J'ai l'impression qu'on revisite une chanson du défunt Jean-Pierre Ferland, Fleur de Macadam.
Ah, ben oui.
Ah, quelque part là-dedans. Ah, j'ai beaucoup aimé quand j'ai écouté la chanson. Je le dis, là, je suis pas amateur de musique country, mais ça m'a tellement fait rire d'écouter. Ça fait du bien d'entendre quelque chose de comique, hein?
Ben, c'est joyeux, surtout un matin de nuages et pluie.
C'est un peu gris. Oui, c'est tristounet ce matin, hein?
Oui, oui, mais en tout temps, c'est agréable. Puis en tout temps, c'est agréable de pouvoir parler à quelqu'un.
Qui nous écoute?
Ben oui, qui nous écoute, mais là, on est derrière nos écrans de plus en plus, oui. Hein? Fait que donc, les réseaux sociaux nous accaparent, notre cellulaire nous accapare.
Écoute,
donc,
Daniel, je sais pas si tu prends le métro quand tu viens à Montréal. Moi, ça me fait rigoler.
Oui.
Je vais vous dire, je peux pas faire deux choses en même temps. Alors, je peux pas être sur mon téléphone en même temps que je marche. C'est un risque pour l'humanité, disons, et pour moi, parce que je rentre dans les murs. Mais je vois ces gens qui fonctionnent comme des robots, qui regardent pas où ils vont. Et je me dis, mais non, c'est parce que là, tu es tellement préoccupé à regarder quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que tu te rends pas compte qu'il y a des gens autour de toi.
Absolument. Puis je connais quelqu'un qui s'amuse à prendre des photos des gens à leur insu parce que de façon d'autre, ils ne me voient pas.
Ouais.
Dans le métro, pendant qu'ils regardent leur truc, elle dit, ils ne s'aperçoivent même pas que je prends des photos d'eux. Elle dit, pour dire. Hein.
Ah, elle, ouais.
Ah, ouais, ouais, ouais. Je me suis amusée à faire ça à un moment donné. Elle dit, pour juste voir si j'attirais l'attention, mais pas du tout.
Bon.
Mais c'est quelque chose. C'est un article paru dans Sciences humaines, l'édition décembre 25, janvier 26. Et puis, ben, je me disais, ben, pourquoi pas? Parce que je m'aperçois qu'on appelle peu nos gens, on utilise peu le téléphone, hein, et puis on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et c'est justement puis pourquoi j'ai choisi ce texte-là, parce que je suis sensible à ça. Alors, exemple, par exemple, vous êtes dans l'autobus ou dans le métro, puis vous voyez une personne un peu plus âgée qui tente de faire une conversation avec vous, et puis on se dit, hey, franchement, c'est donc mignon, mais en quelque part... Mais c'est que cette personne-là, qui est plus âgée, elle n'a pas connu ça, ces histoires de téléphone-là, puis elle avait l'habitude de se parler, de converser avec des gens dans les transports en commun, c'est ce qu'on faisait avant. Et puis souvent, vous remarquerez que la conversation peut commencer par « il fait beau dehors »,« mon Dieu, qu'il fait chaud dans le métro » ou quoi que ce soit, ou encore parler parce que la personne a un chien. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, on vient de le dire. Les gens sont rivés sur leur écran, qu'ils marchent dans le métro, dans le parc, sur un trottoir, peu importe. Alors, on se parle plus. Donc si on voit ça sous cet angle, c'est difficile de contester que les gens se parlent moins qu'avant. Ils manifestent en tout cas une forme d'indisponibilité, on le sent bien, à une conversation improvisée. Ils sont projetés dans l'ailleurs de la navigation sur téléphone et ainsi on se retrouve régulièrement, selon le mot de la sociologue américaine Sherry Turkle, seul ensemble.
Mmh.
Hein, c'est intéressant. Pas besoin pour observer ce phénomène de se rendre dans des espaces de transition ou d'attente en compagnie d'inconnus. Hein. On a juste observé des fois des dîners en famille ou entre amis ou chez des couples qui se regardent que façon épisodique alors qu'ils partagent un repas au restaurant. Ou encore lorsque vous avez un ami, des gens qui sont assis autour de la table avec le téléphone à côté puis qui check les notifications ou quand l'écran s'illumine. Donc, c'est un peu, c'est ça, communiquer aujourd'hui. Comme le note justement le neuroscientifique Michel Desmurget dans La fabrique du crétin digital qui a paru en 2019, force étude à l'appui, il suffit qu'un écran soit présent dans une pièce, et il l'a remarqué, pour que les interactions interpersonnelles y chutent beaucoup. Et de manière emblématique, on a aussi remarqué qu'au sein d'un foyer, plus il y a d'écrans, moins les mots échangés sont nombreux et variés. Parce que tout le monde arrive à table avec ça, ou encore ils ont le téléviseur, ils ont l'ordinateur, etc. D'ailleurs, le philosophe Jean Baudrillard l'avait déjà esquissé dans les années 70 à propos de la fameuse télévision, le grand écran. Ah ben non, on rendait avec le petit écran, le mini-écran, et cette télévision-là, elle devait, dans son livre pour une critique de l'économie politique du signe, et la certitude que les gens ne se parlent plus, les gens sont collés sur le téléviseur à cette époque. Alors avec les téléphones cellulaires, ben ils ne regardent même plus la même chose. Ils vont regarder pas seulement le téléviseur, dans leur écran apparaît des jeux vidéo, des messengers, des messages, etc., Facebook, alors on les nomme. Comment communiquer n'est pas parler, mais comment peut-on affirmer que nous ne nous parlons pas ou plus, alors que ces nouvelles technologies nous font sans cesse échanger avec les autres, avec lesquels nous sommes en permanence connectés? C'est la question qu'on pose dans cet article. Et à l'heure de la communication de masse et des réseaux sociaux, cette plainte paraît bien paradoxale. Parce que toutefois, ces échanges relèvent-ils vraiment de la parole? C'est là qu'on parle, les gens ne se parlent plus, d'où le titre. C'est un anthropologue, David Le Breton, qui, dans La fin de la conversation, paru en 2024 dans son livre, à ses yeux, on n'a jamais autant communiqué, mais jamais aussi peu parlé ensemble. Que ce soit, il nomme, que ce soit dans des appels, messages, commentaires ou autres vocaux, là, nous ne sommes pas dans le domaine de la parole, du dialogue ou de la conversation. Dans l'échange téléphonique ou numérique, on demeure cantonné à une forme de bavardage, par exemple, avec un usage qui est largement fatigue. Que veut dire fatigue? Ben, c'est dire bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez reçu mon message? C'est un langage dans lequel, essentiellement, on se signale où on pointe toujours le risque de ne pas être compris, d'être mal interprété ou encore d'être zappé au profit d'une autre discussion. C'est dans notre quotidien, ça, hein? Ouais. C'est des fois, c'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone, on dit on va arrêter les courriels puis on va jaser pour vrai, là. Cette communication est, malgré une attention diffuse, dans l'attente d'une réponse rapide, encouragée d'ailleurs par la possibilité de savoir que l'autre a vu notre message ou par l'étonnement que constitue un blanc dans un appel et fait de tout silence une anomalie. C'est pas normal qu'ils me répondent pas. C'est pas normal qu'ils m'ont pas compris, oui, ou qu'ils me relancent pas. Hein?
Ah, moi, j'ai des gens, parfois je reçois des textos pendant que je suis dans le métro. Moi, je t'avoue là, que dans le métro, souvent je lis, donc je mets les notifications à off. Et là, j'arrive chez moi et je regarde mon téléphone et là, la même personne, pendant les peut-être les 15 minutes que ça a pris avant que je sorte du métro, que je rentre chez moi et que je réponde, ben elle était fâchée, j'avais pas répondu immédiatement.
C'est quelque chose, hein? Mm-hmm. Hein, c'est vraiment parce que David Le Breton, justement, il dit parler, c'est aussi se taire ensemble. Mm-hmm. Et cela sans suspecter une panne ou interruption de communication pour s'écouter, ouais, comprendre les propos de l'autre, nourrir sa propre réponse. Alors, on serait peut-être moins enragé à ce moment-là. Puis, à l'inverse de la communication, hein, la conversation sollicite une disponibilité, la communication numérique, un souci de l'autre, un échange, une flânerie, une lenteur, une intériorité. La valeur du silence et du visage, l'incertitude du cheminement. Donc, de converser, c'est ça que ça amène aussi, hein? Tandis que communiquer comme ça, numérique, on voit pas ça, on loupe tout ça, ces aspects-là.
Mais tu sais ce qu'on fait maintenant? Moi, je sais, quand je veux parler à quelqu'un de vive voix, je lui envoie un texto, je lui dis « Écoute, est-ce que tu es disponible dans les prochaines minutes? J'aimerais qu'on se parle. »
Ça, je trouve ça bien. Hey, on est rendu qu'on prend des rendez-vous téléphoniques.
Je fais ça.
Mon Dieu, ben, il faut le faire parce que sinon, il se passerait rien. Mm-hmm. Fait que donc, cette communication, elle est une consécration mutuelle qui exige que le fil invisible reliant les individus en présence ne se rompe pas. Mais il y a pour éviter les pollutions inhérentes à l'échange distanciel à distance, rien ne vaut une rencontre en face à face dont les outils numériques peuvent d'ailleurs faciliter la planification, ou encore tout au moins, ou peut-être même, voire même l'annuler. Mais ces rencontres face à face, à l'image de ses voisins, que c'est rendu plus difficile de leur demander un service parce que tout le monde est est individualiste. Hein? On veut pas les déranger aussi. Ça, c'est un classique avec nos voisins. Pour un simple petit coup de main, ben non, aujourd'hui, le numérique nous propose des tutoriels sur YouTube ou des chats GPT. Écoute, puis là, on peut se référer au numérique. Donc, à ce moment-là, on va pas voir le voisin parce qu'on a tout devant nous. Fait que, encore là, on va pas parler au voisin. Nos écrans mettent aussi en péril le dialogue réel lui-même du fait des nombreuses interférences que leur simple présence engendre. Posée sur la table, comme je mentionnais un peu plus tôt, du bar ou du restaurant, hein, ou à la table à la maison, ils attirent le regard furtif hein, de leur possesseur. Ils sont curieux de voir si l'écran s'est illuminé, s'il y a une nouvelle notification qui n'est pas arrivée, qui va interrompre éventuellement la discussion entamée lorsqu'elle advient, quand on a une discussion avec quelqu'un en face à face, entre autres. Fait que tout de suite, ça amène une fragmentation de l'attention et ces interruptions-là potentielles mettent mal à l'aise la conversation qui est rendue secondaire par rapport à la communication. Hein, c'est quelque chose. C'est dérangeant d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un quand on voit qu'il est attiré par son téléphone à tout bout de champ. C'est tout simple que ça. Ça résume un peu ce paragraphe. Ouais. Celui qu'on abandonne ainsi, ainsi se sent bien entendu de moindre intérêt, hein, et c'est comme ça qu'il se sent, ben, franchement, je me donne quoi d'être avec cette personne-là, que le portable de son interlocuteur. Donc, le numérique, le portable devient plus important que la personne qui est devant vous. Pourquoi donc ces comportements? Ben, c'est une forme d'accoutumance, c'est comme une drogue, hein. C'est un confort des relations numériques qui sont moins engageantes et sur lesquelles on a davantage de contrôle. Puis ça explique en partie la fortune que connaissent les échanges avec une intelligence artificielle dont on sait qu'elle ne nous jugera pas. Donc, par exemple, quand on a une distanciation aussi, comme par exemple rompre une relation, exemple amoureuse, via numérique, ça peut couper, on n'a pas le ressenti de la personne qui serait devant nous, donc on s'en claire un peu plus rapidement. Donc, c'est aussi bête que ça. Puis aussi, ben, ça amène une solitude qui est croissante, et c'est surtout les jeunes qui connaissent ça, parce qu'on veut se protéger du monde extérieur, on craint de froisser ou d'énerver en cas de désaccord, et c'est ça. Et on remarque ça surtout depuis la pandémie. Donc, la parole, elle, il faut voir comment on se parle. Si on n'a jamais autant pris la parole et en même temps qu'on s'écoute de moins en moins, c'est aussi parce que notre rapport au langage est vicié et que la parole est souvent réduite. Et c'est souvent réduite à une éloquence agressive. Et les politiques se sont faites, justement, une spécialité. Puis aussi, on impose son point de vue à l'autre avec un punchline bien senti. Tu sais, j'aime bien ça, le punchline bien senti. Ouais. Et plus aujourd'hui on parle, on ne se parle plus. C'est un sombre tableau que nous peint justement Gérard Garuti, qui lui a ouvert un centre des arts de la parole pour que les gens apprennent à parler, à s'écouter, parce que pour lui, ce sont des arts d'écouter et de parler. Et moi, je vous inviterai en terminant cet article de peut-être appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, prendre de ses nouvelles tout simplement, puis de l'écouter surtout.
Oui, c'est un beau conseil. Rapidement, j'ai une anecdote très rapide. Oui. J'avais une date, hein, un rencard, comme diraient les Français, et la personne, pendant que je lui parlais à table, textait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, je lui ai texté, j'ai dit « je pense que ça ne marchera pas » et je suis parti.
Bon. Oh, t'as bien fait.
Alors voilà, après la pause, on va parler à Louis de Bernis. Merci beaucoup, Daniel Rioux.
Au revoir.
Au revoir.